Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, il est 6h, temps universel. Bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique. En direct du Studio 13 ce matin, Nicolas Pinault et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une ce matin, la reprise tout à l'heure à N'Djamena du procès de 21 complices présumés de l'ancien président tchadien Hissène Habré.
Depuis que le procès a commencé, on s'est débrouillé vaille que vaille à retrouver les survivants pour qu'il n'y ait pas de vide.
Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé seront-ils jugés au cours d'un seul et même procès? C'est ce que demande en tout cas la procureure de la CPI. En Corée du Nord, Internet fonctionne de nouveau après une panne géante de plus de 9 heures hier.
Sans oublier la Minute Écho et les sports, et nous reviendrons en fin d'émission sur la mort à 70 ans du légendaire rocker britannique Joe Cocker.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?
Mais tout d'abord, le journal, vous écoutez la VOA Afrique. Bonjour à tous.
À Dakar, le procès tant attendu de Karim Wad a repris hier. La cour spéciale qui juge pour enrichissement illicite présumé l'ancien ministre et fils de l'ex-président Abdoulaye Wad dira le 29 décembre prochain si elle accepte ou non la demande de libération provisoire du prévenu. Jacques Aristide, Karim Wad est en détention préventive depuis avril 2013.
C'est Henri Grégoire Diop, président de la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal, qui a fait cette annonce à la reprise du procès de Karim Wad après 3 semaines de suspension. Le parquet et la partie civile ont déjà rejeté cette requête de liberté provisoire. Ils craignent notamment un risque de subornation des témoins et une fuite en France de Karim Wad. Des arguments qui ne tiennent pas la route, d'après les avocats de la défense. L'audience de ce lundi a été marquée par le retour à la barre d'un des principaux coprévenus de Monsieur Wad, Ibrahima Abou Khalil Bourgi, dit Bobo, un homme d'affaires présenté par l'accusation comme un prête-nom de Monsieur Wad. Le fils de l'ancien président sénégalais est accusé d'avoir illégalement acquis 117 milliards de francs CFA par le truchement de montages financiers complexes du temps où il était conseiller, puis ministre de son père.
Autre affaire judiciaire très suivie sur le continent, le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. La procureure de la Cour pénale internationale demande la tenue d'un seul et même procès contre l'ancien président ivoirien et Charles Blégoudé. Dans un document transmis au juge, Fatou Bensouda estime joindre les deux affaires et dans l'intérêt de la justice et de l'économie judiciaire. Je vous rappelle que les deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité.
Au Nigeria, c'est toujours l'incertitude sur le bilan de l'explosion qui a visé hier un marché de la ville de Bauchi. Lundi dans la journée, un autre attentat à Gombe avait déjà fait une vingtaine de morts chez Rubin Dorsil.
Peu auparavant, la ville de Gombe était le théâtre d'un attentat à la bombe dans une gare routière. On compte au moins 20 morts. Comme pour celui de Bauchi, l'attentat de Gombe n'a pas été immédiatement revendiqué. Mais les insurgés de Boko Haram, qui ont déjà revendiqué de nombreux attentats dans les gares routières, sont pointés du doigt. La secte radicale multiplie ses attaques dans le nord du Nigeria à l'approche des élections de février 2015. Le président Goodluck Jonathan espère obtenir un second mandat, mais il fait face à un adversaire de taille en la personne de l'ex-général Muhammadu Buhari, ainsi qu'un électorat très remonté à cause de la violence des islamistes. En outre, le scrutin risque d'être impossible dans de vastes secteurs du nord-est, dans ce pays le plus peuplé d'Afrique.
Au Libéria, Jean Jouet a bien placé pour être élu sénateur. L'ex-joueur de football est en tête dans le comté de Monserrado, qui inclut la capitale Monrovia. Au total, ce sont 139 candidats qui étaient en lice pour les 15 sièges de sénateurs à renouveler.
Nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Le nombre de morts dus à l'épidémie s'élève désormais à plus de 7500 sur un total de 19 340 cas enregistrés dans les trois pays les plus touchés, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Après une tournée dans la région, le secrétaire général des Nations Unies a plaidé hier pour une aide à l'intention des économies dévastées par Ebola. Ban Ki-moon a aussi demandé de tirer les leçons de cette épidémie pour se préparer à la prochaine.
Et c'est dans ce contexte que l'Éthiopie se dit disposée a envoyé des renforts en Somalie pour éviter qu'une rotation du contingent sierra-léonais expose l'AMISOM, la force africaine, à des risques d'infection à Ebola. Félix Yepa-Sizemou.
La Sierra Leone a déployé plus de 800 soldats en Somalie. Lorsqu'un contingent attendant d'être envoyé en relève a été placé en quarantaine au mois d'octobre, l'un des soldats a été testé positif au virus Ebola, suscitant de vives inquiétudes. Faute de pouvoir assurer une rotation de ses troupes, la Sierra Leone pourrait être amenée à retirer purement et simplement ses soldats. S'adressant à la presse hier à Addis Abeba, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, que cite l'agence Reuters, a dit qu'en cas de requête de l'Union africaine, son pays enverrait des troupes pour remplacer tout contingent qui quitterait la Somalie. Près de 4400 soldats éthiopiens sont actuellement déployés en Somalie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 6h05, temps universel. Dans le reste du monde, en Corée du Nord, rétablissement des connexions Internet après avoir été totalement interrompu hier pendant 9h en raison d'une panne géante. Certains experts suggèrent que la dictature communiste est victime de représailles américaines après le récent piratage informatique contre Sony. Au département d'État à Washington, la porte-parole adjointe Mary Hoff a dit ne pas être en mesure de commenter les informations sur les problèmes de connexion Internet rencontrés par la Corée du Nord.
En Tunisie, le favori du scrutin a donc remporté la présidentielle. Beji Caïd Essebsi, 88 ans, a remporté la première présidentielle libre de l'histoire du pays. Le chef du parti Nida Tounes a largement distancé le chef de l'État sortant, Mansef Marzouki, avec 55,68% des suffrages au second tour de dimanche, selon les résultats annoncés lundi.
Regain de violence en Libye, où les combats entre, évidemment, gouvernements rivaux se sont étendus à un troisième port pétrolier affectant la production de pétrole brut et les exportations de gaz, Michel Joseph.
La Libye a deux gouvernements et deux parlements depuis que le groupe dénommé Aube libyenne s'est emparé de Tripoli au mois d'août et y a installé son gouvernement. Du coup, le gouvernement reconnu par la communauté internationale s'est réfugié dans l'est du pays. Des affrontements ont éclaté il y a un peu plus d'une semaine près des deux principaux terminaux pétroliers du pays lorsqu'une force alliée au gouvernement autoproclamé a tenté de s'en emparer. Conséquence de ces violences, les terminaux pétroliers d'Essider et de Ras Lanouf ont cessé de fonctionner, réduisant de 300 000 barils la production libyenne de 1,4 million de barils par jour. Les combats se sont propagés à l'ouest de Tripoli, menaçant le terminal gazier et pétrolier de Mélita. Par ailleurs, des affrontements séparés oppose à Benghazi des forces pro-gouvernementales à des milices islamistes, faisant au moins 11 morts et 63 blessés hier.
Crise ukrainienne, de nouveau pour parler de paix, auront lieu demain et jeudi à Minsk, la capitale biélorusse. Décision prise hier après des entretiens téléphoniques entre le président français, ses homologues russes et ukrainiens, ainsi que la chancelière allemande. Ils ont noté que la poursuite du cessez-le-feu doit être pleinement respectée.
La Russie, justement, qui traverse ces dernières semaines une grave crise monétaire en raison de la baisse des prix du pétrole et les sanctions occidentales décrétées pour son rôle dans la crise ukrainienne. Moscou veut s'inspirer du succès de la finance islamique pour lancer des services financiers conformes aux principes de l'Église orthodoxe, Bagassikoura.
Isolée des marchés occidentaux par des sanctions liées à la crise ukrainienne, la Russie n'entend pas se laisser faire. Grâce au président Barack Obama et à la crise, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas compter sur le système financier occidental, a déclaré lundi Dmitri Lyubomirov, l'un des promoteurs de cette initiative, lors d'une conférence de presse à Moscou. Également présent, le porte-parole de l'église orthodoxe russe, Zevolov Chaplin. Il a appelé à la mise en place de mécanismes qui ne sont pas basés sur l'intérêt assimilé à l'usure, à l'instar de la finance islamique. La nouvelle structure financière interdira à ses membres les prêts avec intérêt, ainsi que tout investissement dans les activités non conformes à la morale orthodoxe, dont les jeux ou le tabac. De hauts représentants de l'épiscopat de l'Église orthodoxe russe formeront un conseil de surveillance de la finance orthodoxe.
Et puis du nouveau dans l'enquête au sujet du sergent Bergdahl, ce militaire américain disparu en 2009 en Afghanistan, risque la cour martiale s'il est convaincu de désertion. L'armée a transmis son dossier au général 4 étoiles que Mark Miley, commandant de l'armée de terre. Ce haut gradé devra déterminer si une procédure disciplinaire doit être engagée. Je vous rappelle que Bergdahl avait retrouvé la liberté, c'était en mai dernier, en échange de la libération de commandants talibans. Il était resté prisonnier en Afghanistan pendant 5 ans. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Comme tous les matins à cette heure-ci, c'est l'heure de la Minute Économie pour en parler ce matin. Jean-Roger Billon, bonjour Jean-Roger.
Bonjour Nicolas.
Alors Jean-Roger, le Soudan va maintenir les subventions sur le blé et les carburants et n'augmentera pas les impôts l'année prochaine.
Oui, l'annonce a été faite hier par le ministre des Finances, Baldereldien Mahmoud, alors qu'il présentait son projet de budget au Parlement. En septembre 2013, le gouvernement avait réduit drastiquement les subventions sur les carburants, provoquant une hausse des prix de plus de 60% et en réaction de grandes manifestations. Le président Omar El-Béchir a appelé plus tôt cette année à une renaissance politique et économique du pays, ravagée par la guerre, la pauvreté et des troubles politiques.
À Libreville, le Gabon et le Maroc ont signé un accord cadre de coopération en matière de développement et d'investissement humain.
Le développement et l'investissement humain constituent deux chantiers stratégiques pour le Maroc et le Gabon. Et c'est pourquoi le roi Mohamed VI et le président gabonais Ali Bongo Ondimba ont décidé que les deux pays unissent leurs efforts dans ce sens et partagent leurs expériences dans ce domaine. L'accord cadre a été signé côté marocain par le ministre de l'Intérieur Mohamed Assad et côté gabonais par le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oyiba.
Et puis ce chiffre du jour, 463 milliards de dollars, c'est le montant pour émerger économiquement dont ont besoin les pays de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO.
C'est M. Abdoulaye Zonon, chargé du programme communautaire de développement au niveau de la commission de la CEDEAO, qui l'a dit hier, et il l'a dit dans le cadre du forum scientifique de la 23e édition de la Foire internationale de Dakar, la FIDAC, qui, vous le savez, s'est ouverte depuis vendredi dernier. Selon M. Zonon, donc, ce montant résulte d'une étude prospective du consortium de recherche économique et sociale, le CRES, basé au Sénégal, dont la commission de la CEDEAO s'est attachée les services pour voir ce qu'il faudrait à l'Afrique en termes financiers pour émerger économiquement.
Merci Jean-Roger. Le journal des sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Nicolas.
La Confédération africaine de football a effectué ce lundi le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions.
Oui, 58 clubs étaient au départ de ce tirage qui avait exempté 8 formations. Il s'agit notamment du champion d'Afrique en titre, l'Entente sportive de Sétif, le Coton Sport de Garoua, l'AC Léopard de Dolizé, le tout-puissant Mazembe, le CS Faxien, l'Espérance de Tunis. Quelques affiches à noter au cours de ce tour préliminaire. Le Cercle Olympique de Bamako affrontera le Maghreb de Tétouan au Maroc. Les Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud seront face aux Township Rollers. Le CW Sport, finaliste de la Coupe de la Confédération, sera face à l'AS Kaloum de Guinée. Rigo Gervais, entraîneur du CW Sport San Pedro.
Je pense qu'on connaît bien le football guinéen et puis l'AS Kaloum n'a pas été champion par hasard. Il faut le prendre au sérieux et puis il faut préparer ce match avec le sérieux.
On imagine que le fait d'avoir joué la finale cette année va vous pousser encore l'année prochaine à aller jusqu'en finale et pourquoi pas la Coupe.
Je pense que tout ce qu'on a fait en Coupe CAF, on aimerait le réussir au niveau de la Ligue des champions. Donc on aura vraiment à cœur de ces dates et de tout faire, de profiter de notre expérience pour pouvoir aller très loin en cette compétition.
C'était Rigo Gervais, entraîneur du CW Sport San Pedro.
On parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2015, le Sénégal qui se prépare au Maroc.
Oui, et ce sera à partir du 7 janvier dans la ville d'El Jadida, à une centaine de kilomètres de Casablanca. La première partie de la préparation s'effectuera à Dakar après les fêtes du Nouvel An. Jusqu'au 6 janvier, le stage au Maroc sera ponctué le 13 janvier par un match amical contre la Guinée, également qualifiée pour la CAN. Et les Lions rallieront le 16 janvier la Guinée équatoriale, pays hôte de la compétition du 17 janvier au 8 février. Le Sénégal évoluera dans le groupe C, jugé le plus relevé avec le Ghana, l'Algérie et l'Afrique du Sud.
Et toujours concernant cette CAN, le Congo et le Cap-Vert se rencontreront, ce sera le 10 janvier.
Oui, la rencontre aura lieu à Dakar, au stade Léopold Sédar Senghor. Selon les organisateurs cités par l'AFP, le Congo qui figure dans le groupe A avec la Guinée équatoriale, le Burkina Faso et le Gabon se préparera du 2 au 13 janvier à l'Institut Diambara à Sali au Sénégal. Le Cap-Vert dans le groupe B avec la Zambie, la Tunisie et la RD Congo effectuera un stage à Dakar du 9 au 12 janvier. Le Congo disputera le match d'ouverture de la CAN 2015 contre la Guinée équatoriale, pays organisateur, le 17 janvier à Bata. Et puis enfin, Nicolas, les résultats de la NBA de la nuit dernière.
Oui, Bagassi, Toronto, leader de la conférence Est, chute à Chicago, 120-129. Tony Parker a permis à San Antonio de renouer avec la victoire face aux Clippers de Los Angeles, 125-118. Les Spurs redressent la barre après 4 défaites d'affilée. À Charlotte, Denver s'incline, 108-82. Autre défaite à l'extérieur, celle de Portland à Houston, 95-110. En revanche, Utah s'impose à Memphis, 97-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Ravi d'être avec vous ce matin, Nicolas Pineau au micro pour Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission, la partie magazine. Et c'est aujourd'hui que doit reprendre N'Djamena le procès pour assassinat et torture de 21 complices présumés de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Ouvert le 13 novembre, il avait été ajourné en raison d'une grève des avocats, huissiers et notaires qui réclament à l'État tchadien plus de 40 milliards de francs CFA en diverses condamnations et honoraires. Les grévistes ont suspendu leur mouvement jusqu'au 31 janvier, permettant la reprise des audiences. Timothée Donangmaï a donc joint maître Jacqueline Moudeina. Elle est l'avocate des victimes présumées d'Hissène Habré.
Ce sont des plaintes qui ont été déposées depuis 14 ans tout de même. Et depuis 14 ans, il s'est passé pas mal de situations, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de décès, aussi bien dans les rangs des plaignants que dans celui des accusés. Depuis que le procès a commencé, on s'est débrouillé vaille que vaille à retrouver les survivants pour qu'il n'y ait pas de vide du côté des plaignants. Mais avec cette perturbation, c'est assez difficile la reprise parce que certaines victimes viennent des villages, des préfectures, des sous-préfectures du Tchad. Il y en a qui ont attendu pendant longtemps, qui ont regagné leur fief et du coup, on doit les faire revenir. Il y a un problème de moyens financiers qui se pose pour le déplacement de ces personnes.
Les avocats ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Est-ce que cela donne le temps à la justice de trancher cette affaire?
En un mois, on ne peut pas évacuer un dossier comme celui-là. Parce que c'est un grand dossier, mine de rien. Aujourd'hui, le rapport d'enquête ordonné par le gouvernement en 92, de ce rapport, il ressort 40 000 morts, des milliers de disparus et de veuves. Et ce n'est pas en un mois qu'on peut évacuer ce problème. Et nous voulons aussi que ça se passe dans les normes, que ça se passe correctement, qu'on prenne le temps que ça doit prendre pour que la vérité jaillisse.
Comment voyez-vous la progression du dossier Hissène Habré à Dakar?
À Dakar, tout se passe très bien. Les juges d'instruction sont presque à la fin de leur travail. Donc, nous attendons d'un moment à l'autre la mise à disposition du dossier et nous espérons aussi la production d'un acte de renvoi devant les juridictions de jugement.
Maître Jacqueline Moudeina, elle était jointe à N'Djamena.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En République centrafricaine, l'archevêque de Bangui a sauvé une petite fille musulmane des mains d'un groupe de miliciens anti-balaka qui menaçaient de la tuer. En sous-nombre et sans armes, Mgr Nzapalainga et son équipe ont fait preuve de bravoure et ont fini par regagner Bangui sain et sauf. Jean-Roger Billon.
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga avait passé 4 jours avec son équipe à donner des soins médicaux gratuits à des centaines de personnes dans les villages autour de la ville de Yakolé, à environ 225 km de Bangui. C'est dans ce contexte que l'archevêque et son équipe ont décidé de transférer une malade de 8 ans et ses parents à Bangui pour des soins hospitaliers. En route vers Bangui, ils ont été arrêtés par les anti-balaka à un barrage routier à 26 km au nord de la capitale centrafricaine. Écoutons le témoignage du docteur Elkana Ndawacha, membre de l'équipe.
C'était horrible l'acte que nous avons vu de la part de nos frères les anti-balaka. Ils avaient une grenade en main, prêt à lancer sur le véhicule si on essayait de partir. Deux, ils ont sorti des couteaux. Ils ont fait sortir un peu de leur voiture pour le poignarder. Et l'archevêque a intervenu, a arrêté le malfrat avec le couteau en main. Il a retiré le couteau et l'archevêque est resté avec le fourreau.
La mission est censée avoir la protection des soldats de l'ONU, mais aucune escorte militaire n'avait été mise à la disposition du prélat et de ses hommes. Selon toujours le médecin Ndawacha, le groupe a passé un mauvais quart d'heure.
Et nous sommes battus avec les anti-balaka pour les empêcher de tuer les peuples que nous avons dans la voiture. Et nous avons fini par mettre les peuples dans le véhicule et nous avons fui avec eux. Et l'archevêque était resté avec 2 véhicules derrière et nous avons fui jusqu'au niveau de la barrière de PK12.
Jovis Ouakara, un journaliste local qui a été témoin de l'incident, a confirmé les faits. La fille malade a finalement pu être acheminée au domicile de l'archevêque avant d'être transférée dans un hôpital. De nombreux observateurs ont souvent remis en question la neutralité des forces de sécurité centrafricaines. Dr Elkana Ndawacha dit que les gendarmes et policiers centrafricains qui observaient la scène se sont gardés d'intervenir. L'Église catholique est l'une des rares organisations qui continue de fournir de l'aide médicale dans les villages centrafricains et ses équipes sont souvent confrontées au harcèlement des groupes armés.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Il est 6h20, temps universel. Retour aux États-Unis où le ministère de la Justice a annoncé hier avoir démantelé un système international de corruption. Il implique le groupe français Alstom qui a versé des pots de vin pendant plus d'une décennie à des officiels des gouvernements de plusieurs pays, comme nous l'explique Jacques Aristide.
D'après les autorités américaines, Alstom a accepté de plaider coupable de violations de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger en rapport avec cette affaire. Le vice-ministre de la Justice, James Cole, parle d'une décision historique qui, a-t-il dit, a mis fin à un programme transnational de corruption impliquant Alstom et ses filiales en Suisse et aux États-Unis.
They used bribes to secure contracts in Indonesia.
Ils ont soudoyé des officiels pour obtenir des contrats en Indonésie, en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Bahamas. Alstom a payé en tout des dizaines de millions de dollars pour des projets évalués à 4 milliards de dollars et s'assurer ainsi des bénéfices de 300 millions de dollars environ. En acceptant de plaider coupable, a ajouté M. Cole, Alstom va payer une amende de plus de 772 millions de dollars. Si cette amende est approuvée l'année prochaine par un tribunal fédéral, ce sera de l'histoire des États-Unis la plus grosse amende jamais payée pour corruption. Selon Leslie Caldwell, autre ministre adjointe américaine de la Justice, Alstom utilisait souvent des tierces parties en tant que consultant pour soudoyer les officiels concernés.
Alstom's corruption spanned the globe.
La corruption d'Alstom n'épargnait aucun coin du globe et c'était en réalité sa façon de faire des affaires. En Indonésie, par exemple, Alstom et certaines de ses filiales ont engagé des consultants pour soudoyer des officiels gouvernementaux, dont des membres influents du Parlement indonésien et des entreprises étatiques ou contrôlées par l'État, dont les compagnies d'électricité. Alstom a ainsi agi pour gagner des contrats très lucratifs estimés à plusieurs millions de dollars dans le secteur énergétique. Quatre hauts responsables d'Alstom ont déjà plaidé coupables en rapport avec ce qui s'est passé en Indonésie, a déclaré Madame Caldwell. Son collègue James Cole a souligné que la lourde amende qui attend Alstom et la coopération dont ont fait preuve plusieurs pays dans cette enquête devraient servir d'avertissement aux firmes internationales qui tenteraient de violer les lois anticorruption.
Let me be very clear.
Que ce soit très clair, la corruption n'a pas de place sur le marché international. Et le cas d'Alstom signifie que les États-Unis continueront de jouer un rôle de premier plan pour son éradication. Pour les autorités américaines, Alstom avait commis une grosse erreur en ne coopérant pas assez tôt avec les enquêteurs et en prenant au début des mesures pour tenter de cacher son implication dans ce système de corruption.
On reste à Washington pour vous parler de cette tradition rythmique et mystique sauvegardée depuis des décennies dans un petit parc de la capitale américaine. Chaque dimanche après-midi, sauf en hiver, des percussionnistes font rugir des rythmes endiablés et cela dure depuis un demi-siècle, comme l'explique Jean-Roger Billon depuis Meridian Hill Park.
Oh, j'y ressens beaucoup de puissance et d'énergie ici quand je viens battre du tam-tam.
Ce monsieur, c'est Shango Kwame. Il joue au tam-tam depuis plus de 20 ans.
Jouer ici me rappelle l'Afrique, la mère patrie. Partout en Afrique, les tambours sont joués pour célébrer. Les gens l'utilisent pour les fêtes. Si la mer réchauffe, juste venir ici et jouer à chaque fois.
Plus de 50 batteurs, principalement des Africains américains, jouent des instruments de percussion de différentes tailles, formes et origines. Certains sont professionnels, d'autres des débutants, mais tous ensemble, dans cette assemblée circonstancielle, créent à l'unisson une rythmique de tambour africain. La dynamique du rythme amène des centaines de gens à écouter et à danser. William Taft, un ancien du groupe, explique que le cercle du tambour a des racines profondes dans l'histoire des Noirs qui habitent Washington depuis 1862.
C'est le point le plus visible à Washington. Lorsque les premiers esclaves ont été libérés d'ici, la première chose qu'ils ont faite, c'était de procéder au rituel de la culture percussionniste africaine le premier jour de leur émancipation.
Mais selon Taft, le rassemblement hebdomadaire a commencé en 1965 quand les batteurs ont joué dans le parc pour honorer le militant des droits civiques Malcolm X après son assassinat. Depuis cette époque, Meridian Hill Park est connu dans la communauté comme étant Malcolm X Park. Au début, Taff dit que le groupe était plutôt petit, intime. Les musiciens enseignaient le tambour et la culture africaine. Comme les quartiers autour du parc ont changé au fil des décennies, le cercle a changé aussi. D'autres batteurs se sont joints à l'ensemble, d'autres races, et la foule qu'elle attirait dans le parc est devenue plus nombreuse et plus diversifiée.
Avoir l'énergie que les percussionnistes génèrent vous élève vraiment à un niveau supérieur. Vous entendez le fond sonore. C'est presque l'effet d'une boisson énergétique.
Candice McCanns, comme beaucoup d'Africains américains, dit qu'elle sent un autre type d'énergie dans le parc.
Je crois que ce lieu est vraiment sacré. Je suis venue ici pour danser pour mes joies, de danser pour mes douleurs, mes peines, ma guérison. Je suis venue ici pour tout cela.
Les batteurs espèrent seulement que cette tradition du dimanche à Meridian Hill Park va se perpétuer et ils prennent leur rôle très au sérieux.
Place à présent à la page musicale. Dans cette émission, nous retrouvons Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. L'artiste Joe Cocker est mort. Le rocker et bluesman anglais souffrait d'une longue maladie au sujet de laquelle il était resté discret. Il avait fêté ses 70 ans en mai dernier. On se souvient de lui ce matin dans « Up Where We Belong ».
Who knows what tomorrow brings in a world few hearts survive.
All I know is the way I feel when it's real, I keep it alive. Is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain.
Et oui, c'est une bien triste nouvelle à l'approche des fêtes, Roger.
Effectivement, Nico, une mauvaise nouvelle pour tous les fans de Joe. D'après son agent Barry Marshall, l'interprète de Unchain My Heart était sans doute le plus grand chanteur britannique de rock et soul. Une vraie star, mais un homme humble et gentil qui adorait la scène, a-t-il confié aux médias, sans s'étendre davantage. Nico, pour les millions de ses fans, il sera impossible de combler le vide que Joe laisse dans leur cœur.
Joe Cocker et Jennifer Warnes dans Up Where We Belong. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie, Nico. Nos sincères condoléances aux fans de cet artiste international.
Roger Muntu, que vous retrouvez tous les soirs, 20h, temps universel, dans le RM Show.
Yes, long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the
Et c'est sur ces notes de musique que va s'achever notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous allons saluer Yacouba Compaoré à Kadiogo, c'est au Burkina. Et Malika Sambo, elle nous suit depuis Niamey, c'est au Niger. Comme retrouvez-nous sur notre page Facebook La Voix de l'Amérique. Anne Albertson et Nicolas Pinault vous ont accompagné ce matin. On va vous souhaiter une excellente journée, toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.